S'il vous plaît, dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 12. Nous sommes encore dans la série Dieu le Père. La série touche à sa fin. On va terminer la semaine prochaine. Il me reste encore deux petits sujets que je tenais à aborder dans le cadre de cette série-là avec vous. Matthieu chapitre 12. Et je vais lire les versets 46 à 50. On va aller ensemble dans la prière avant de lire la parole de Dieu. Eh bien, Père éternel, merci de nous accueillir ce matin. Père, par la foi, Seigneur, nous croyons que tu es ici, au milieu de nous, que ton esprit est là, habite au milieu des louanges de ton peuple, et Seigneur, que ton esprit habite en chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. Par la foi, Père, nous croyons que nous sommes accueillis dans ta présence. Et nous avons cette ferme assurance, Seigneur, parce qu'elle ne repose pas sur notre piété personnelle, elle ne repose pas sur la qualité de notre marche. Notre assurance repose sur la qualité de l'œuvre que Christ a accomplie en s'offrant volontairement pour mourir sur cette croix. Pour payer pour tous nos péchés, tous nos manquements, tous nos errements, toutes les offenses dans nos vies personnelles qui ont été élevé vers le ciel et devant les hommes. Et tous ces péchés secrets aussi, qui un jour paraîtront, Seigneur. Mais dans ta grâce, tu as fait le premier pas. Dans ta grâce, tu es venu vers nous, dans la personne de ton Fils, Jésus-Christ. Et dans ta grâce, tu nous as appelés. Nous ne te cherchions pas, Seigneur, parce que nous ne sommes pas meilleurs que le reste des hommes. Mais tu nous as appelés et tu as ouvert les yeux de notre cœur afin que nous comprenions cette merveilleuse et bonne nouvelle du salut qui est offert en Jésus-Christ. Et tu nous as adoptés en Jésus-Christ. Ô, sois béni, Père. Et Père, ce matin, je te demande de mettre ta main sur moi et sur chacun d'entre nous. Que l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs soit évidente par la compréhension de ta parole et que cette parole soit vie pour nous, Seigneur. Que ce ne soit pas simplement des paroles lancées en l'air ou des principes, Seigneur, ou de la théorie, mais que ce soit vie, Seigneur, en nous. Transformation à l'image de ton Fils. Père, j'aimerais te prier pour ceux qui ne sont pas avec nous parce qu'ils sont retenus par la maladie. Je pense à Irène qui a reçu cette greffe de foie et qui a quelques complications, qui est à l'hôpital. Je pense à Diane qui est hospitalisée, mais plusieurs autres aussi, Seigneur. Fortifie leur foi au milieu de l'épreuve. Et aide-nous, Seigneur, à être là avec elle, avec chacun d'entre eux comme famille de Dieu. Je te prie, Père, pour ceux qui se sont éloignés, ceux qui se sont laissés envelopper par le péché et se sont égarés. Seigneur, sers-toi de nous pour les aimer, pour les bénir, pour les reprendre avec grâce, avec douceur et les ramener à la maison, Seigneur. Mais surtout, toi, parle à leur cœur. Je prie, Père, pour ceux qui sont ici au milieu de nous ce matin et qui ne te connaissent pas personnellement, qui sont encore comme des orphelins spirituels sur cette terre. Ouvre les yeux de leur cœur, Père, afin qu'ils trouvent en toi ce bon Père et en toi, Seigneur Jésus, ce frère. Frère et Seigneur, viens nous bénir ensemble ce matin. Je t'en prie dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Je ne sais pas si j'aurais voulu être dans la peau de sa mère à ce moment-là, ou de ses frères et sœurs. Jésus est en train d'annoncer quelque chose d'extrêmement important. Il est en train de faire une déclaration immense. C'est fort ce qu'il est en train de dire ici. Jésus est en train de dire que ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui cherchent à honorer son Père céleste, ceux qui marchent selon les voies de Dieu, ont un lien plus intime et plus étroit avec lui que sa mère biologique et que ses frères et sœurs. Et pourtant on sait que Jésus n'a pas rejeté sa mère. Au jour de sa crucifixion, Jésus était encore en train de prendre soin de sa mère. Donc, ce n'est pas qu'il l'a rejeté. Est-ce que Jésus est en train d'utiliser une figure de style? Il veut faire une grande déclaration. Marchez avec Dieu, vous allez être près de moi. Est-ce que c'est une métaphore? Quelque chose pour frapper fort, pour marquer un point qu'il est en train de dire là? Ou est-ce qu'il croyait profondément que malgré l'intimité, et j'imagine l'intimité de la relation que Jésus a eue avec sa mère. Imaginez la relation entre une femme qui était comme chacun d'entre nous, pécheresse, pécheur, mais avec un fils qui n'a jamais péché. Imaginez l'intimité de cet amour filial qui était là. Ça devait être absolument extraordinaire. Marie a connu une maternité unique. Il n'y a aucun doute. Il n'y a absolument aucun doute. Alors, Jésus a vécu ces liens-là affectifs, vrais. Dieu s'est fait homme. Jésus comprend cet amour-là qui est là. Est-ce qu'il est en train d'utiliser une figure de style pour frapper fort et nous dire « c'est important la vie spirituelle » Je pense que non. Je pense que Jésus est vraiment en train de déclarer, nous annoncer une vérité. Qu'il y a des liens qui sont plus forts et éternels, il y a des liens qui sont plus grands encore que des liens biologiques et naturels qu'on trouve sur cette terre qui prendra fin un jour. Et je crois qu'on ne peut pas mettre en doute la parole d'un homme qui se prépare à être crucifié, à mourir sur une croix, afin que des milliers, des millions d'hommes et de femmes puissent être adoptés par Dieu. Il croyait tellement à ce qu'il déclarait là, qu'il a donné sa vie pour que cela soit rendu possible. Il a donné sa vie en mourant sur cette croix pour qu'une nouvelle famille puisse être formée, une famille pour son Père céleste, une famille d'enfants, de fils et de filles adoptifs. Un petit peu plus loin, je vais vous lire dans l'Évangile de Jean, mais plus tard dans son passage sur terre. Jésus va dire, après sa résurrection, dans Jean 20, versets 17 et 18, je vous le lis, vous pourrez prendre le temps d'aller les méditer plus tard. Voici ce que Jésus déclare après sa résurrection à Marie de Magdala. Alors qu'il a été crucifié, il est ressuscité, voici ce qu'il dit. « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Jésus a accompli ce qu'il avait promis qu'il accomplirait. Il est mort sur cette croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est fascinant, dans ces deux versets-là, ceux que l'apôtre Jean, c'est Jean qui écrit cet évangile-là, c'est lui le narrateur, ceux que le narrateur appelle les disciples de Jésus, Jésus les appelle comment? Ses frères. Et il dit à Marie, « Je dois aller vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Voyez-vous, non seulement Jésus nous dit que ceux qui marchent avec Dieu et qui suivent Dieu sont ses frères, ses sœurs, sa mère, cette relation plus étroite et plus intime encore et éternelle, mais il l'a rendu possible par son sacrifice. Et Jésus est en train de nous dire, tout ce que je rêvais pour vous, je l'ai rendu possible. Et maintenant, mon Père, avec qui je vis cette intimité, cette relation étroite, est votre Père. À cause de ce que j'ai accompli, j'ai rendu possible cette adoption. Ce matin, je ne vais pas revoir avec vous le processus d'adoption. On ne va pas revoir tout ça. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ça, s'il vous plaît, écoutez la série depuis le début. Allez la chercher sur le site, allez chercher le CD. Vous devez comprendre le processus d'adoption pour comprendre de quoi je parle ici. Mais voyez-vous, Jésus-Christ avait cette conviction qu'il était en train de former, il était en train de mettre au monde une famille spirituelle, une famille créée d'enfants, de fils et de filles adoptés d'un peu partout sur la terre, qui serait une véritable famille à la gloire de Dieu. Et tout le Nouveau Testament emploie ce langage-là en parlant des frères et sœurs. Alors, les auteurs du Nouveau Testament s'adressent aux églises et puis ils disent « frères et sœurs » constamment. Il y a ce sens-là d'une famille qui a été créée. Et ce n'est pas utilisé dans le sens de fraternité comme on pourrait le rencontrer, n'est-ce pas? Des fraternités, il y en a partout, il y en a dans les universités. Ce sont des fraternités, on se donne un langage pour dire qu'on est des bodés, on est ensemble. Pour Jésus-Christ, la famille de Dieu, créée à travers son sacrifice, ce n'est pas qu'une figure de langage. C'est quelque chose de vrai et de profond. Parce que voyez-vous, son sacrifice, ce n'est pas une figure de langage. C'est une vraie vie qui a été clouée sur une vraie croix à un vrai moment dans l'histoire de l'humanité et son sang a été versé. Il n'y avait rien de figure de style là-dedans. Le prix que Dieu a payé, le prix que Christ a payé pour fonder cette nouvelle famille est véritable et immense. La Sainte Trinité a conçu de toute éternité ce projet de fonder cette famille composée de fils et de filles adoptifs dans cette nouvelle famille. Et le prix payé a été extrêmement cher. Alors quand Jésus dit « Tous ceux qui marchent avec Dieu, voilà ceux qui sont mes frères, mes sœurs, ma mère. » Il n'est pas en train d'utiliser une formule de style, une figure de style. Il est en train de parler de quelque chose qui est bien réel et bien vrai pour lui. Un élément que je voulais aborder avec vous à travers la série, c'est cette question de la famille de Dieu. Voyez-vous, lorsque... Je crois que c'est Dieu qui a mis sur mon cœur cette série pour adresser toute cette question de notre relation avec notre Père céleste. Et j'insiste depuis le début de la série pour dire que nous vivons souvent comme si nous étions des orphelins spirituels, inquiets, sans sécurité, sans Père qui veille sur nous. Alors qu'on ne comprendrait pas que nos propres enfants aient une attitude semblable. Nous-mêmes, nous nous comportons comme ça envers notre Père céleste, qui est tellement plus sage, plus grand, plus bon que moi comme Père terrestre. Et j'avais à cœur d'adresser ça avec vous parce que je vois tellement de cœurs inquiets. Mais il y a un pendant à ça. Voyez-vous, si nous ne sommes pas des orphelins spirituels parce que nous avons un Père céleste qui veille sur nous, bien déjà sur la terre, d'une manière bien concrète et bien réelle, dans des rapports, des relations horizontales, nous ne sommes pas non plus orphelins. Parce que lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes adoptés dans une nouvelle famille. Et cela se traduit de manière très concrète par une église locale. Toute la gang ici, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, nous sommes des fils et des filles adoptifs de Dieu. Par pure grâce, on fait partie de la famille de Dieu. Et nous sommes cette famille terrestre. Non seulement je ne suis pas orphelin spirituellement, mais je ne suis pas orphelin ici sur cette terre dans mes rapports humains. Quand quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ, il entre dans une nouvelle famille. Et d'une manière spéciale qui est difficile, peut-être impossible à comprendre pour des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, il y a de nouvelles relations qui se développent, qui d'une certaine manière vont beaucoup plus loin que les rapports qu'on va avoir avec notre famille biologique. Et je veux insister sur quelque chose parce que je ne voudrais pas être mal compris ce matin. Je ne suis pas en train de dire que lorsque tu deviens chrétien, tu abandonnes ta famille biologique. Au contraire, comme je viens de le montrer avec Jésus. D'accord? Certains d'entre vous, si vous n'êtes pas familier avec la foi chrétienne, vous pouvez avoir ces images qu'on voit de sectes qui se replient sur elles-mêmes. Ils sont rentrés là-dedans, puis on les a perdus de vue, il n'y a plus de relation. Mais au contraire, si vous regardez le style de vie de Jésus, Jésus a toujours demeuré un personnage public qui avait une vie publique, qui était en relation avec ceux qui se disaient être ses disciples comme avec ceux qui ne l'étaient pas, qui a gardé ses relations même avec sa famille jusqu'à la fin. Alors notre foi chrétienne ne doit pas nous conduire à abandonner nos familles. Au contraire, on trouve dans l'Évangile une grâce nouvelle pour développer des relations plus profondes. Et c'est vrai que bien souvent, lorsque quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe dans la relation avec la famille. C'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas chrétien de voir toute cette vie, puis tout ce bouleversement d'idées qui se passe, chambardement de valeurs qui se passe, parce que tout d'un coup, tu te découvres pécheur, tu découvres la grâce qu'il y a en Jésus-Christ, tu apprécies la sainteté de Dieu, tu poursuis ça, ça vient modifier, ça vient altérer tes rapports. Alors c'est vrai, il y a souvent une distance qui se crée au départ parce que la famille ne comprend pas, et avouons-le, des fois on est assez maladroit. Hein? Au jour de ta conversion, tu veux bénir tout le monde, puis ça va rentrer, mes amis. Alors avouons que souvent on contribue nous-mêmes avec bien des maladresses parce qu'on manque de sagesse, on manque d'amour, des fois avec orgueil. On veut défendre l'Évangile et on peut nuire à des relations. Mais généralement, avec les années, les relations se reconstruisent et souvent sur une base très, très belle. Parce que justement, notre témoignage, tranquillement, à travers les années, s'installe. On devient plus sage, on apprend à discerner l'orgueil dans notre cœur et approcher les autres avec plus d'humilité. Alors, je ne voudrais pas que vous soyez sous l'impression que je suis en train de communiquer ce matin. Si vous êtes chrétien ou si vous êtes en train de découvrir la foi chrétienne, que le christianisme doit nous amener à prendre une distance par rapport à notre famille naturelle. Pas du tout. Mais il y a cette réalité pour nous. Au moment où on place notre foi en Jésus-Christ, nous entrons aussi dans une nouvelle famille. Et la réalité, c'est que souvent les rapports sont là, atteignent une profondeur qu'on n'a pas connue avant. Et je pense que ça s'explique assez simplement. Voyez-vous, la base de nos relations les uns avec les autres ici, la base de nos rapports les uns avec les autres, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. Nous sommes une famille. Tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus ici, nous sommes une famille de personnes qui se sont découverts pécheurs et graciés. Cette famille-là est constituée sur la base de la grâce. La condition pour que j'entre dans la famille, c'est que je découvre combien je suis pécheur, que je reconnaisse que Dieu est saint, qu'il y a ce fossé entre Dieu et moi qui m'empêche d'aller vers lui, et que je découvre à travers l'évangile de Jésus-Christ la grâce d'être pardonné et accepté avec tous mes péchés parce que je me reconnais pécheur et je m'en repens. Et donc, je sais que j'entre dans cette famille sur la base de la grâce. Et ça modifie des rapports humains. Ça transforme des relations humaines. Lorsque tu approches quelqu'un en sachant profondément, au plus profond de ton cœur, de ton âme, que tu es un gracié, il y a une puissance qui est là pour aller dans des relations qui sont tellement plus riches, tellement plus profondes. Voyez-vous, l'Église est une famille d'enfants adoptifs de toute nation, de toute ethnie, de toute condition sociale. Une famille d'enfants adoptés, des gens qui ont reçu la grâce d'être adoptés dans la famille de Dieu. Et lorsque vous arrivez dans une église locale, si vous prenez le temps d'entrer en relation avec la famille, de vous attacher à une assemblée locale, de tisser des liens, de commencer à inviter des frères et sœurs à manger chez vous, ou vous joignez à des petits groupes de prière sur semaine pour tisser des liens, prier les uns avec les autres, vous entrez dans des relations de coaching, de formation de disciples, vous commencez à servir avec l'assemblée, vous découvrez des relations d'une profondeur extraordinaire. C'est tellement riche comme rapport lorsque tu vas dans la prière avec quelqu'un puis tu dis, faut que je te partage, je vis une lutte, je vis un combat, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin de partager ce combat-là avec un frère. Et tu commences à t'ouvrir puis le frère dit, moi aussi je vis des luttes, puis on va ensemble dans la prière. Vous comprenez, c'est une base pour construire des relations absolument exceptionnelles. Maintenant, c'est possible aussi, comme dans les familles, de faire partie de la famille, mais de ne pas être trop présent dans la famille. Et c'est pour ça que j'ai mis comme condition l'idée de s'intégrer, l'idée de tisser ses liens, l'idée d'entrer en relation. C'est possible d'être un mononcle. Vous savez, il y a toujours des mononcles ou des matantes dans la famille que tu vois juste une fois par année ou une fois par 5 ans. Tu reçois un coup de fil, ils sont là au souper de famille une fois par année. Ils ne sont pas là. Ils font partie de la famille, mais ils ne sont pas dans la famille. C'est le mononcle que tu salues et que tu ne connais pas trop. Vous savez de qui je parle? On en a tous dans nos familles. Et c'est possible d'agir comme ça, comme chrétien. Fait que c'est sûr que si vous êtes un mononcle qui vient le dimanche matin puis qui salue le monde, vous comprenez que les relations ne sont pas super deep, là. Je veux dire, à part mon cœur qui est mis sur la table devant vous chaque dimanche matin, c'est des accolades, quelques mots de prière, ça se passe vite le dimanche matin. Alors, c'est possible aussi de se comporter comme un mononcle, une matante assez distant de la famille qui n'est pas trop près. Mais si vous entrez dans ces rapports-là, il y a une profondeur et une richesse qui se trouve là, qui est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment cette conviction profonde, après maintenant plus de 20 ans de vie chrétienne. Et vous devez toujours garder à l'esprit qu'il n'y a probablement personne dans l'Église qui sait autant que moi à quel point l'Église est poquée. D'accord? Je sais qu'il y a plein de cyniques ici qui se disent « Ouais, l'Église est belle, si tu savais, comme c'est une gang de pécheurs. » Je sais. C'est parce que je passe mes semaines à accompagner des pécheurs, à régler des conflits, à aider des gens qui se sont accrochés, à les instruire là-dedans. C'est ma vie, ça, vous comprenez? Je la connais, l'Église, sous ses plus beaux côtés, puis sous ses plus laids côtés. C'est une famille de pécheurs qui est en train de grandir ensemble dans un processus de sanctification. Il y a des chicanes de famille, puis on se picoche, puis on s'accroche. Puis Dieu travaille à travers ces choses-là pour notre sanctification. Mais après plus de 20 ans de vie chrétienne, j'ai cette conviction profonde que le meilleur témoignage que je peux donner à un ami qui n'est pas chrétien sur la puissance de l'Évangile, après avoir annoncé le message, c'est de le faire rencontrer l'Église de Jésus-Christ. C'est de l'inviter chez moi quand j'ai un petit groupe qui vient prier chez nous. Puis de voir comment on est en relation les uns avec les autres. C'est de l'inviter un dimanche matin, puis de l'inviter dans des événements, puis l'inviter lorsqu'on sort ensemble, puis juste voir comment on entre en rapport les uns avec les autres, malgré toutes nos faiblesses, malgré toutes nos luttes, malgré toutes nos difficultés. Il y a une puissance dans l'Évangile pour développer des rapports qui sont complètement différents des rapports qu'on a à l'extérieur. Il y a cette possibilité pour nous de s'accueillir les uns les autres comme ce n'est pas possible de le faire à l'extérieur de la famille de Dieu. Tournez avec moi dans Romains 15, s'il vous plaît. Je vais être un peu plus court ce matin, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Romains 15, je vais vous lire les versets 5 à 11. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis en parlant des Juifs pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Voyez-vous, Paul est en train de nous dire ici que la famille de Dieu est composée de gens de toutes les nations qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont été accueillis par Jésus-Christ. À cause de ce que Jésus a fait, nous sommes accueillis dans la famille de Dieu. Et il y a cette puissance dans l'Évangile pour nous accueillir les uns les autres. Frères et sœurs, vous n'êtes pas orphelins parce que vous avez un Père céleste qui veille sur vous. Et celui-là est invisible et le demeurera jusqu'à ce que vous le rencontriez. Vous n'êtes pas orphelins non plus parce que vous faites partie d'une famille, la famille de Dieu, la famille, la communauté des gens qui ont été adoptés par pure grâce. Et je vous invite à entrer dans cette relation-là. Entrer dans ces rapports-là plus profonds. Voyez-vous, dans l'Évangile, on trouve l'espace pour s'accueillir constamment. Dans l'Évangile, on trouve l'espace pour accueillir des gens de toute nation, de toute ethnie, de toute condition sociale. Dans l'Évangile, on trouve l'espace pour se pardonner les uns les autres. Dans l'Évangile, on trouve l'espace pour se supporter les uns les autres parce que nous savons que nous sommes nous-mêmes graciés. Ce matin, tout le monde dans la salle ici, vous êtes dans une de ces trois situations-là. D'accord? La première, vous savez que vous faites partie de la famille de Dieu et vous jouissez de la famille de Dieu. Vous en profitez. Vous êtes intégré dans des relations profondes qui participent à votre croissance. Pas toujours simple, pas toujours facile, souvent sanctifiant dans le meilleur sens du terme. Mais vous bénéficiez de ces rapports riches de pécheurs graciés et vous êtes en train de grandir, vous prenez soin d'autres personnes. Première situation. Deuxième situation, vous êtes un enfant adopté, mais vous êtes le mononcle de la famille, la matante de la famille, qui a toujours l'air un petit peu en visite, qui a saisi l'Évangile, mais qui n'est pas rentré dans des relations profondes, qui ne voudrait pas déranger et qui ne voudrait pas être dérangé, qui ne se détache pas complètement parce que quelque part elle est chez elle, il est chez lui ici, mais en même temps qui garde une distance un peu confortable. La troisième situation, évidemment, c'est que peut-être vous ne faites pas partie de la famille encore. Peut-être que Dieu, pour vous, c'est une personne, vous êtes en quête de cette personne, vous êtes en démarche, mais vous n'avez pas la conviction profonde que vous avez été adopté en Jésus-Christ. que vous faites partie de la famille. On arrive à la fin de la série et j'espère être de plus en plus concret. Alors, je vais vous laisser avec des devoirs pratiques, d'accord, pour les prochaines semaines. Parce que ma prière, c'est que cette série-là ne change pas seulement notre manière de voir Dieu, notre rapport à Dieu dans la prière, mais que ça vienne affecter nos rapports les uns avec les autres aussi. Si vous êtes dans la première situation, rappelez-vous qu'il y a toujours de la place pour plus d'enfants adoptifs dans la famille. Lorsque tu sais que tu es un enfant adopté, il y aura toujours de la place pour en adopter un autre. Il y aura toujours de la place pour en accueillir un autre. Il y aura toujours de la place pour laisser le mononcle ou la matante se rapprocher de la famille et l'accueillir et l'aimer. Alors moi, je vous demande d'évaluer votre attitude comme membre de la famille de Dieu. Et si vous voyez qu'à quelque part, vous êtes installé dans des relations assez définies et arrêtées, faites de la place dans votre petit groupe, votre groupe de prière. Allez voir des gens qui sont un peu en retrait et faites-les entrer dans ces liens beaucoup plus profonds. Si vous savez qu'il y a des gens, quelque part dans l'Église, qui sont un peu distants et qui auraient besoin qu'on s'approche d'eux, ce sont des enfants de Dieu. Allez vers eux. Allez les accueillir comme vous avez été accueillis en Jésus-Christ. Entrez dans des rapports, des relations de coaching, de formation de disciples. Allez dans ces zones plus profondes où on peut jouir enfin de la richesse de la famille de Dieu. Si vous vous sentez près du Père, peut-être qu'il y a un des enfants ici qui ne se sent pas près du Père. Et il a besoin d'aller avec vous dans la prière pour que vous l'aidiez à se rapprocher du Père céleste. Si vous êtes dans la deuxième situation, mon oncle, ma tante, en visite le dimanche matin, on vous aime bien, on est toujours content de vous voir. C'est bon de te voir. Sortez de votre zone de confort. Vous avez des excuses. Vous avez été blessé par la famille. Vous n'êtes pas senti accueilli par la famille de Dieu. On est une communauté de pécheurs, les amis. Mais on a la grâce de l'Évangile. Et probablement que lorsque vous avez été offensé, vous avez été blessé, possiblement que la personne manquait, probablement que Dieu est en train de vous parler. Sortez de votre zone de confort. Entrez dans des relations plus profondes. Vous n'êtes pas orphelin. Vous avez un Père céleste, mais vous avez une famille terrestre. Et on a besoin de vous. Et vous avez besoin de nous. Si vous êtes dans la troisième situation, venez goûter combien c'est bon la famille de Dieu. Venez goûter combien c'est bénissant. Venez nous voir. Demandez de l'aide pour lire les Écritures. Prenez une décision simple cette semaine. Décidez de lire un des quatre évangiles et chercher comment Jésus parle de la famille de Dieu et de cette relation au Père céleste. Venez vous joindre au cours La foi chrétienne expliquée. On va voir ensemble l'évangile. C'est possible d'avoir cette assurance que vous n'êtes pas orphelin, mais que vous avez un Père céleste. Frères et sœurs, la famille de Dieu est une grâce absolument extraordinaire. Et j'ai, après 20 ans de vie chrétienne, cette profonde conviction que Dieu savait ce qu'il faisait et que c'est un témoignage puissant pour l'Évangile. Il faut s'avancer ensemble puis entrer dans ces relations profondes et jouir de cette famille que Dieu nous a donnée. On va prier ensemble. Père éternel, tu sais combien j'aime la mère qui m'a donné la vie. Combien j'aime mon Père qui m'a donné la vie, combien j'aime mon frère, Seigneur. Tu sais combien ils me sont précieux, Père. Combien je les chéris dans mon cœur. Mais ta parole est vraie. Ta parole est vraie et je trouve en Jésus-Christ des relations plus profondes et plus vraies. Je trouve en Jésus-Christ la possibilité de me présenter comme je suis pécheur et de trouver de la compassion dans le regard de l'autre. Je trouve la possibilité en Jésus-Christ d'être accompagné jour après jour, conduit dans la repentance, conduit dans ta parole, dans cette poursuite de la sainteté. Je trouve en Jésus-Christ cet accueil inconditionnel. Et Seigneur, je le trouve partout sur la terre, à travers toutes ces assemblées locales qui prêchent l'Évangile de Jésus-Christ, qui enseignent ta parole, où ton esprit est à l'œuvre. Et Seigneur, pour l'éternité, je vais célébrer avec mes frères et sœurs tes desseins parfaits. Je te prie pour cette assemblée, Seigneur. Aide-nous à vivre profondément dans notre cœur avec cette confiance que notre bon Papa veille sur nous et qu'il a placé à nos côtés des frères et sœurs pour être des modèles, des exemples, pour prendre soin les uns des autres. Et Père, je veux te prier parce que c'est toi qui ouvres les yeux du cœur. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir les yeux de ceux qui cherchent et qui n'ont pas encore saisi l'Évangile. Accorde-leur la grâce de saisir ton amour et d'entrer dans la famille. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.